qui est actuellement pasteur à Belfort. Ça va faire 8 ans, hein, je crois. 8 ans, 7 ans, 7, 8 ans. 7 ans qu'il est pasteur. Je crois que c'est la 8e année qu'il est en train d'entamer là-bas, à Belfort, de l'autre côté de la France. Mais en fait, Daniel et moi, on a fait sa connaissance il y a un peu plus de temps, il y a une dizaine d'années maintenant, puisque auparavant, avant d'aller à Belfort, Cédric était pasteur dans la région. Il était pasteur à Orléans, précisément, aux côtés de Marc Philippe. Et c'est à cette occasion qu'on a pu faire connaissance et qu'on s'est rencontrés et qu'on a même travaillé ensemble, puisque pendant plusieurs années, Cédric a été un élément moteur dans le comité Actival. Actival, vous le savez, hein, c'est l'association qui s'occupe de l'organisation des événements de jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle, à Actival, on a émis le souhait d'inviter Cédric pour qu'il soit l'orateur cette année de la journée de septembre. Et elle s'est déroulée hier, comme vous le savez. Et ça a encore été vraiment un très bon moment. On a eu environ, peut-être même un peu plus de 300 jeunes encore qui se sont réunis, qui ont répondu à l'invitation. Et Cédric a annoncé la parole, il y a eu la louange, il y a eu l'adoration, il y a eu des moments d'expression aussi de la part des jeunes. Et ça a été vraiment encore un moment fort. C'est devenu vraiment un rendez-vous très important maintenant dans la région, dans le Val-de-Loire. Et on se réjouit vraiment de ce qu'on vit à chaque fois avec les jeunes de la région qui viennent de toutes les églises du Val-de-Loire. Donc il y a Orléans, il y a Tours, bien évidemment, parce que le rendez-vous avait lieu avec nos deux rappeurs qui ont bien mis l'ambiance hier. À Tours, donc vous voyez, vous avez un petit aperçu de l'auditoire aussi, et ça vient de, il y a même, ça c'était le temps d'appel à la fin du deuxième temps spirituel, il y avait les jeunes de La Roche-sur-Yon aussi qui ont fait 3 heures de route pour venir nous rejoindre cette année, donc ça a vraiment été vraiment des moments bénis, et les jeunes de la région ont donc pu bénéficier du ministère de Cédric qui a apporté la parole. Il a vraiment ce cœur, cette passion pour les jeunes, et c'est ce qui explique son engagement dans le passé au sein d'Actival. Et cet engagement, il l'a prolongé en intégrant le DNJ, qui s'occupe des activités de jeunesse, mais au niveau national. Puis vous savez que tous les 3 ans, on participe aussi, le groupe de jeunes d'Angers participe à ce rassemblement national, et c'est lui qui est désormais le coordinateur du DNJ. Il a copié Actival aussi. Parce que quand il est arrivé comme pasteur à Belfort, voilà, il a organisé aussi un comité sur le modèle de ce qui se faisait dans le Val-de-Loire. Et on est heureux de l'accueillir ce matin à Angers. Il a été pendant 6 ans à Orléans, mais on a trouvé plus simple de l'inviter maintenant qu'il est pasteur à Belfort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on va lui laisser toute la place pour qu'il nous annonce la parole maintenant.
Voilà. Merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir aussi de revoir des amis, hein, parce que je crois que c'est important aussi de se dire que on n'est pas que collaborateurs dans le ministère. Nous sommes aussi des amis. On a vraiment des choses qui se développent. Et puis, il y en a quelques-uns qu'on connaît. J'ai l'occasion là de revoir Françoise qui est venue me saluer. C'était super de se revoir. Rassurez-vous aussi, j'ai un cœur pour la jeunesse, mais j'ai aussi un cœur pour l'Église. Et je crois que c'est aussi important qu'on soit encouragé, vivifié et qu'on entre aussi dans la vision que Dieu nous donne. J'aime aussi beaucoup les enfants. Alors, il paraît qu'il y avait des enfants avec nous ce matin. Il y a des enfants là aussi qui sont là. Ah, il y en a quelques-uns. Ah, il y a des grands enfants, hein, mais mais il y a des petits enfants aussi. Hein. Je me suis pas mal impliqué dans l'écolo et en particulier au Térébinthe pendant plusieurs années. Mais l'Église et le peuple du Seigneur, il est vaste, il est grand, et c'est une bénédiction de pouvoir servir et de communiquer ce que le Seigneur place sur nos cœurs. Ce matin, j'ai un message un petit peu particulier parce que je vais vous passer pas mal de vidéos. C'est pas toujours mon habitude. J'utilise un peu le multimédia aujourd'hui, mais ce matin particulièrement, il y en a un certain nombre. Parce que je voudrais vous encourager sur quelque chose de particulier. Je sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive parfois. J'allais dire souvent, mais quand ça nous arrive souvent, ça commence à être un signe un petit peu alarmant. Vous savez, c'est ces moments où quand on arrive dans une pièce dans la maison et d'un seul coup, on se dit mais chercher un truc, je sais plus ce que c'est. Ça vous arrive, ça? Non? Hein? Il y a un moment donné, on est venu faire un truc, mais c'est quoi, là? On revient en général sur les pas, on se remet dans la condition initiale, et après on dit, ah oui, ça y est, je me rappelle ce que j'étais venu faire. Alors ça, quand ça arrive parfois, ça, c'est normal, apparemment. Quand ça arrive trop souvent, ça peut être inquiétant parce que là, il y a peut-être des choses au niveau du cerveau qui commencent à ne plus fonctionner très bien. Mais si ça arrive quelquefois, c'est normal. Et souvent, on revient de là où on était parti pour se remémorer ce qu'on était parti faire. Vous me suivez ? Deuxième chose, je voulais vous partager avant de vous dévoiler le titre de mon message. Je sais pas si vous aimez le rugby. Alors, si vous aimez le rugby, que vous êtes pas fan de rugby, enfin, si vous n'êtes pas fan de rugby, que quelqu'un dans votre famille en ce moment aime le rugby, va falloir apprendre à aimer le rugby, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est la Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Pareil que j'ai pas regardé le match hier, on était à Actival, on a discuté avec Xavier, j'ai pas regardé le match hier, mais de temps en temps ça m'arrive. Pareil que l'Angleterre, ils ont perdu, mais j'ai regardé le premier match, le match d'ouverture, j'étais chez mon frère, on a regardé le match d'ouverture, lui c'est un passionné de rugby, on a fait du rugby aussi, on avait un père qui faisait du rugby, mais il y a quelque chose qui m'a surpris, je sais pas si vous avez regardé un peu les matchs ou pas, c'est le buteur anglais, hein, celui qui marque les pénalités, hein, celui qui tape, avant de taper, il fait un truc très bizarre, il est là, il regarde son ballon, puis il fait comme ça. Il regarde où il va le mettre, d'accord ? Et il le fait plusieurs fois, ça a l'air de... J'ai l'impression que c'est trois fois, c'est un peu de la superstition, certainement. Mais en même temps, il se concentre sur l'objectif à atteindre. Il faut que le ballon qui est là, il passe entre les poteaux. Et il le fait bien, il regarde bien, et après il tape, et le buteur anglais... Il est particulièrement bon et souvent, très souvent, je crois que je sais pas, il doit avoir 80 ou 90%, peut-être qu'il a même 95% de réussite des pénalités. C'est un très bon buteur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce matin, je vais vous parler de ça ce matin. Je fixe les yeux vers le but. Lorsqu'on est venu au Seigneur, il y a des choses qui se sont développées dans nos vies, dans nos cœurs. On a été saisis par le Seigneur. Et parfois, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, de nombreuses années plus tard, on a parfois oublié ce qu'on fait là. Et je crois que c'est important de revenir au début, de revenir de là où on est parti pour se dire « Ah mais oui, bien sûr, le Seigneur est entré dans ma vie, il a bouleversé mon cœur, il a changé ma destinée, il a pardonné mes péchés, il m'a rempli de son amour et je sais qui je suis, je sais où je vais et j'entre dans la gloire de Dieu. Je me prépare à entrer dans la gloire de Dieu et je suis pèlerin sur cette terre et en tant que pèlerin sur cette terre, je suis appelé à témoigner, à communiquer la bonne odeur de Christ partout où je me passe. » Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? J'ai fait un mix, j'ai fait une fusion là de deux versets particuliers qu'on peut trouver le premier dans Philippiens au chapitre 3 versets 14 à 15. Philippiens chapitre 3 verset à partir de la fin du verset 13 où Paul rappelle que il est venu pour remporter le prix de sa vocation en Jésus-Christ, qu'il court, et il dit, j'ai pas encore saisi le prix, à l'époque où il écrit, hein, parce que depuis il l'a saisi. Il est rentré dans la gloire. Mais il dit, verset 13, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et un deuxième verset que je vais lire dans la Bible, version Bible du Semeur, dans Hébreux au chapitre 12. Parce qu'en fait, il n'y a pas de verset qui disait « je fixe les yeux vers le but ». Il y a des versets qui disent « je cours vers le but ». Il y a des versets qui disent « je fixe les yeux vers Jésus ». Mais je crois qu'il y a une vraie fusion dans ces textes. De fixer nos yeux sur le Seigneur et sur le but qu'il nous a donné d'atteindre. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er, mais je vais lire à partir du moment où il est question de garder les yeux fixés sur Jésus. Et dans la Bible du Semeur, ils traduisent ainsi « gardons les yeux fixés sur Jésus ». Et un petit peu plus loin du verset 2, il nous est dit « parce qu'il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. Amen. » Ce texte d'Hébreux, chapitre 12, bien sûr, ça fait suite au chapitre 11. Et le chapitre 11, plusieurs, nous savons que c'est le chapitre des héros de la foi. De la manière dont des hommes, des femmes ont saisi la personne de Dieu, ont saisi la vie en Dieu et ont marché sur cette terre dans l'espérance de le royaume futur. Et ils ont démontré dans leur vie qu'ils avaient confiance en Dieu et ils ont vécu des miracles tout le temps de leur pèlerinage sur cette terre. Et la fin de ce chapitre 11 bascule sur le chapitre 12 qui dit « Si nous sommes donc entourés d'une si grande nuée de témoins, de ceux qui ont vécu passionnément, ardemment, totalement en vue du royaume à venir et qui ont démontré dans leur vie terrestre qu'ils étaient attachés à ce qui allait venir et qu'ils ont développé cette odeur de Christ » pendant tout le temps de leur pèlerinage terrestre. Alors, si nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, faisons comme eux, dépouillons-nous, enlevons autant, jetons loin de nous le péché qui nous enveloppe si facilement et gardons les yeux fixés sur Jésus, sur le prix de la vocation qu'il y a en Jésus-Christ, sur la réalité de notre vie terrestre et de notre destinée et prenons courage et rappelons-nous de ce qu'il a enduré, mais de ce que maintenant, il est assis à la gloire de Dieu le Père et que la croix, c'était une étape. Amen. On va parler de plusieurs témoignages parce qu'il est question d'être environné d'une si grande nuée de témoins. Et ce matin, je voudrais vous rappeler justement quel est le but de notre vie. Quel est le but de notre existence? Parce que peut-être, à un moment donné, là, de votre vie, vous êtes arrivé dans la pièce et vous savez plus pourquoi vous êtes là. Je voudrais ce matin vous encourager, de la part du Seigneur, à être vivifié à nouveau, à être dans une vision de conquête spirituelle, non pas brutalisante, mais passionnée, par l'amour du Seigneur, renouvelée et encouragée pour être cette bonne odeur de Christ. Je vous passe une petite vidéo qui n'est pas un témoignage, mais qui est une vidéo avec une chanson qui explique le titre de cette vidéo. Ça s'appelle « Do something kind ». Fais quelque chose de bon, de gentil. Aha. Alors ça, c'est très mal. Ouais. Parce que normalement, il y a des images là, en même temps. T'as des images là? T'as pas d'images? Eh bien, tant pis. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la réalité de la technique. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, je vous explique. J'explique vite fait quand même la vidéo et puis vous aurez l'occasion de la voir avec Xavier plus tard. C'est quand? Tu sais pas, mais... l'idée, ça s'appelle les producteurs, c'est Live Vest, hein, les gilets de sauvetage. Et vous avez toute une chanson dans laquelle vous avez des gens, un petit garçon, un ingénieur de chantier, une vieille dame, etc., qui vivent un moment compliqué. Ça démarre avec un garçon qui fait du skateboard et puis il tombe, ah, il se fait mal, ah, il a mal. Et là, il y a le chef de chantier là qui est à côté avec son gilet jaune et qui le prend, qui le relève. C'est pas compliqué du tout d'aider quelqu'un à se relever. Mais il fait un geste de bonté, de gentillesse. C'est simple. Et puis après, on voit que ce garçon, hop, il voit une vieille dame qui est chargée de paquets et il l'aide à traverser la rue. C'est rien du tout, hein. Vous savez, c'est l'histoire des scouts avec leur bonne action. Mais au fur et à mesure, on voit que ceux qui bénéficient d'un geste de gentillesse et de bonté, bah, immédiatement après, ils font quelque chose à quelqu'un aussi, et puis il y a une chaîne comme ça qui se répercute, et ça revient après au chef de chantier du début. Et la boucle est bouclée, il y a cette dimension de, à partir du moment où on communique quelque chose de bon, forcément il y a quelque chose de bon, où le Seigneur va nous bénir à un moment donné, mais on le fait pas pour ça, on le fait parce que on veut aider, on veut exprimer de la compassion, de la gentillesse, de l'amour, et ça fait partie des fruits de l'esprit, hein. Je vous rappelle que le fruit de l'esprit, entre autres, c'est la bonté, la bienveillance. Et la bonté, c'est pas toujours quelque chose de totalement hallucinant, où je vide mon compte en banque pour donner à tous les pauvres qui sont autour de moi. Je peux le faire. C'est possible. Si le Seigneur nous met à cœur, il y a aussi des dimensions où le Seigneur nous donne d'être généreux. Et Dieu appelle certains à entrer dans la libéralité, dans le don total. C'est possible. Mais dans le quotidien de ma vie, Je suis appelé à communiquer cette bonté, cet amour, cette bienveillance qui est parfois toute simple. Vous savez, des fois, la bienveillance, ça change l'attitude du cœur de l'autre, ça change l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Vous savez, on a des principes d'éducation. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui dans nos nouvelles générations, mais vous savez, il y a des choses qui sont tout simples, ça s'appelle « s'il te plaît » et « merci ». Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas un truc délirant. Mais est-ce qu'on dit « s'il te plaît », est-ce qu'on dit « merci » et encore dans notre propre famille à table. Parce qu'on a tellement l'habitude de vivre au quotidien avec les uns et les autres qu'on ne s'empresse plus de dire merci quand l'autre, il nous rend un petit service, peut-être de rien du tout, simplement de lui dire merci. Est-ce que j'exerce encore cette dimension de communiquer, de dire merci? Et après, vous avez une deuxième étape qui est de passer par-dessus les habitudes automatiques. Parce que des fois, on a tellement été bien éduqués qu'on dit s'il te plaît, merci, mais c'est automatique. C'est-à-dire que le cœur n'y est pas. Il n'y a pas un désir de communiquer un acte bon et de démontrer de l'amour simplement en encourageant l'autre. Et quand la dernière fois que tu as dit merci, non pas parce que c'est automatique et parce que tu as été bien éduqué, mais parce que tu avais envie de communiquer un vrai merci du cœur pour encourager celui qui t'a simplement passé le sel ou mis la fourchette dans le lave-vaisselle. Apprendre à vivre comme ça, des fois, ça peut changer l'atmosphère de notre maison, de notre couple, de notre vie avec nos enfants, de la vie avec nos voisins, surtout ceux qui mettent la musique à fond et qui sont un peu pénibles, ou qui sortent pas les poubelles, et qui laissent traîner tout dehors, ou qui font de la mobilette fort dans le quartier où c'est pénible. Vous savez, ce type de choses, commencer à communiquer quelque chose de bon, ça change l'existence. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à démontrer de la bonté et de la bienveillance là où Dieu nous a placés. Je ne crois pas que théologiquement, là, je vous ai fait découvrir une sommité extraordinaire, fabuleuse, mais interrogeons-nous. Et parfois, au lieu de regarder, au fait, qu'est-ce que je fais là? Oui, je me rappelle, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Le Seigneur m'a aimé. Le Seigneur est entré dans mon existence. Il a changé mon cœur. Il a changé mon attitude. Et je vais communiquer simplement ces actes de bonté simples et faciles. J'ai été marqué un jour par une histoire que j'ai entendue où il était question d'un homme qui s'est suicidé, qui s'est jeté du haut d'une tour, et sur son corps, on a retrouvé un petit mot qui disait simplement « Aujourd'hui, j'ai décidé d'en finir avec la vie. Mais si durant ma journée, je rencontre quelqu'un qui me sourit, je ne mettrai pas fin à mes jours. » Ça veut dire que cet homme, du matin où il a pris cette décision, alors ça devait certainement venir depuis longtemps, mais durant toute cette journée, dans toutes les personnes qu'il a rencontrées durant sa journée, il n'a trouvé personne qui lui communique un simple sourire. Alors depuis que j'ai entendu cette histoire, je vous avoue que ça a changé mon comportement avec les gens que je rencontre dans la rue. Parce qu'avec un simple sourire, on peut apporter quelque chose. On ne va pas évangéliser et amener le monde entier au pied de la croix simplement parce qu'on fait un sourire aux gens. Mais on peut créer quelque chose de bénissant et de bénéfique dans la vie de la personne qui nous regarde, même quand c'est le SDF qui est toujours au pied de la même boulangerie et que je croise 15 fois par jour, et que quand j'arrive à cet endroit-là de la rue, je sais que je vais le trouver, alors je regarde par là pour pas être un petit peu dérangé, culpabilisé et amener dans ma vie quelque chose qui me dit « qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner des sous, il va les boire avec. » Je ne donne pas des sous ? Ben non, je ne donne pas de sous. Mais je peux lui sourire, je peux lui dire et souhaiter malgré tout une bonne journée ou lui dire simplement bonjour. Et ça peut être très simple. Alors après, on peut lui acheter aussi à manger, on peut faire quelque chose. Mais parfois, la vie chrétienne, c'est pas sur Mars. Il faut pas faire un voyage sur Mars pour vivre en tant que chrétien. Des fois, il y a des choses toutes simples, mais qui changent la vie et qui changent l'existence. Alors, si tu as repris la main, oh, il y a des images, c'est beau, parce qu'il y a son nom qui arrive. Ce garçon s'appelle Ethan Hallmark, 13 ans. Il a une bonne tête, non? Ah, il a une bonne tête. Satan, c'est en train de dire, oui, ce qu'il nous dit le pasteur, là, oui, c'est simple, c'est... Mais moi, dans ma vie, je vis des difficultés, je souffre, et je crois que j'ai vraiment une parole pour quelqu'un ce matin qui peut-être vit dans une maladie qui le fait souffrir. Et la souffrance d'une maladie, peut-être ça peut être des maux de tête. Je connais des amis, des frères chrétiens, ils ont des migraines. Et la migraine, ça nous prend tellement la tête que ça nous renferme. C'est une souffrance lancinante, continuelle, insupportable, à tel point qu'on peut peut-être même devenir aigri, se fermer au monde, se fermer aux relations, parce que des fois il y a trop de bruit et on n'en peut plus. Et on peut dire, oui, moi, il y a des choses là, on me dit, mais je souffre. Ça fait mal, ça devient insupportable, et j'ai envie d'une seule chose, c'est d'être au calme et qu'on me laisse tranquille. J'aimerais vous parler de ce garçon. Ethan Hallmark, 13 ans, qui a une bonne tête. Alors, voici son histoire. Voici ce qu'il dit. Je jouais beaucoup au baseball à l'époque. Il avait 9 ans. J'étais même plutôt accro. Je savais que je voulais être docteur depuis le début. Enfin, je souhaitais tout ce qu'un enfant peut espérer. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais tellement mal à l'estomac qu'ils m'ont donné de la morphine. Mais ensuite, je ne me souviens de rien, car je me suis évanoui. Comme j'entends pas bien, je suis peut-être en décalage, ils ont fait une biopsie qui a révélé un stade 4 de neuroblastome. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je savais que c'était le cancer et que c'était plutôt grave, mais je ne savais pas à quel point. Voilà, son père qui parle, il a une tumeur derrière son cœur et cette même tumeur s'enroule autour de la colonne vertébrale. Les os de mon fils se brisent. J'avais l'impression que mon corps était en feu. J'avais l'impression d'être allongé sur un lit de clous. Il n'arrivait plus à respirer, criait tellement fort, « Arrêtez ça !» À partir de ce moment, plus de baseball, plus d'école. C'était horrible. J'ai été voir plusieurs docteurs à New York, Boston, San Francisco, Houston. Et il n'y a aucun d'eux qui ne m'a pas répété que mon fils allait mourir. Mon fils m'a dit, je sais que je suis au milieu des ténèbres, mais j'ai appris que même à travers les ténèbres les plus épaisses, la plus petite étincelle peut briller. C'est sûr qu'on passe par des moments où l'on demande à Dieu pourquoi ? Pourquoi mon fils ? Pourquoi ne peux-tu pas l'utiliser d'une autre manière ? J'ai raté quelques épisodes où Ethan dit « Bien sûr que je veux vivre, qui ne le veut pas ? C'est évident, je veux vaincre cette maladie, mais je ne serai pas si triste si je n'y arrive pas. » 13 ans, ça fait 4 ans que cet enfant souffre au moment où il communique son témoignage dans une émission qui s'appelle « I am second ». Je suis le deuxième, parce que le premier, c'est Jésus. Et je veux vivre à sa gloire. Je veux vivre pour lui. Ce garçon va dire « ma maladie », alors qu'il vous dit hein, « j'ai été pris, c'était comme un feu qui brûlait, j'étais comme allongé sur un lit de clous. » C'est terrible. C'est une souffrance terrible. Dans les soins qu'il suit, c'est une souffrance terrible. Et il dit, ma maladie, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que sans ma maladie, je ne connaîtrais pas Jésus comme je le connais aujourd'hui. 13 ans, tous les médecins disent « votre fils va mourir ». C'est une réalité. Il nous dit ceci ensuite. Tu peux avancer, s'il te plaît, Marido. Voilà, c'est sûr que je veux vaincre cette maladie, mais je ne serai pas si triste si je n'y arrive pas. Vraiment, je ne vais pas dire que le paradis, c'est pas trop mal. Au contraire, c'est un endroit parfait. Cette fille dit qu'il m'a appris à ne pas perdre espoir, quelle que soit la situation. Il y a quelques personnes dans notre église qui se battent contre le cancer, elles ont entre la 50aine et la 60aine, et Ethan a eu un impact considérable sur leur vie, au travers de ce qu'il vit, de la manière dont il vit. Il dit ceci, même si je ne survis pas à ce cancer, je resterai fixé sur mon objectif. Et quand j'y serai, c'est-à-dire près du Seigneur, même si c'est bientôt, j'espère me présenter devant le Seigneur et l'entendre me dire, j'ai l'espoir d'entendre me dire, bien, bravo, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. 13 ans. Peut-être que dans nos vies, il y a un moment donné où on est dans cette pièce, et on ne se rappelle plus trop bien ce qu'on y fait. On est peut-être frustré, on est peut-être découragé, on a peut-être des gens pas sympas qui nous cassent les pieds, peut-être même dans l'église. Mais rappelle-toi ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur. Rappelle-toi de la manière dont il est descendu du ciel, qu'il est venu sur une croix pour porter tes souffrances, pour porter tes péchés, et pour inspirer, donner à ta vie un souffle nouveau, un souffle de puissance, un souffle de résurrection, pour que tu sois celui ou celle qui, peu importe les circonstances, vit sa présence, vit son amour, respire l'odeur du ciel et la transmet dans ton quotidien. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que tu es appelé dans ton quotidien, mon frère et ma sœur. Amen. Et de cela, on a besoin de voir notre vie être transformée. On peut continuer. Alors, vous avez compris que comme j'entends pas forcément très bien, je suis un peu en décalage, mais c'est pas grave. Il dit ceci, le psaume 40, verset 5 ou 6 dans nos versions, c'est probablement mon verset préféré. Tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, leur nombre est trop grand pour que je les raconte. C'est vrai que cela paraît bizarre que ce soit mon verset préféré, les merveilles de Dieu, la grâce de Dieu et tout le reste. Mais pourtant, c'est vrai. Même si ce cancer m'a apporté beaucoup de mauvaises choses, il m'a aussi apporté beaucoup de bonnes choses. J'ai rencontré des amis que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Un ami à moi s'est converti juste parce que j'ai joué avec lui. Et là, il est là-haut au moment où l'on parle. Il est auprès du Seigneur parce qu'il est mort aussi. Je me suis rapproché de Dieu plus que toute ma famille. Beaucoup de bonnes choses sont arrivées, mais aussi beaucoup de coups durs. Mais je n'échangerai ma relation avec Christ contre rien au monde. Non, contre rien du tout. Peut-être que tu souffres. Mais ce garçon, c'est un des témoins dont nous sommes environnés. Nous croyons dans un Dieu qui guérit. Et plusieurs ont été guéris, et encore même récemment, par la grâce de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Parce qu'il est venu sauver nos vies. Parce qu'il est venu nous délivrer aussi de la puissance de la maladie. Il l'a vaincu à la croix. Mais parfois, le Seigneur permet qu'on passe par des moments les plus compliqués de notre vie pour nous apprendre à le connaître tellement plus, tellement mieux, de cette profondeur, de cette relation avec lui, qui va ensuite se répandre dans toutes nos relations autour de nous. Vous avez entendu les témoignages de ces personnes qui disent, il y a dans l'église des gens de 50 ans, 60 ans qui passent par le cancer, et au travers de la manière dont Ethan traverse avec la grâce de Dieu sa vie, sa situation, ça les a encouragés, ça les a fortifiés, ça les a transformés. Ce petit garçon de 13 ans qui dit, j'ai pu témoigner, et un copain à moi s'est converti, il est mort, il est passé de l'autre côté, mais il est auprès du Seigneur, parce que j'ai pu jouer avec lui. Lui, il a fixé son regard sur l'objectif, sur la réalité de sa vie avec Dieu. Tu peux avancer. Et j'aime ce texte et je crois que ça doit être ça qui doit nous réveiller, nous stimuler, raviver notre foi et notre cœur à servir Dieu de la manière la plus extraordinaire possible. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est au travers de cette passion que le Seigneur a développée envers moi, comment il a changé ma vie, ma destinée, mon existence. Alors oui, maintenant je vis pour lui, et je le vis avec joie. Je suis heureux, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur moi, parce que la maladie, même si elle me brise, même si elle te traumatise, même si elle t'enferme, elle n'a pas le pouvoir de te couper de ta relation avec celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la paix. Je suis celui qui donne tout avec surabondance. Et toutes ces choses servent à quoi ? À démontrer que quelle que soit ma situation dans laquelle je suis, si je vis dans la présence de mon Dieu, alors je respire une autre odeur, je développe une autre odeur et je bénis ceux qui sont autour de moi. Et Dieu m'utilise, quelles que soient mes souffrances, quelles que soient mes situations, quelles que soient les choses que je traverse, il fait de moi un vase en son honneur, dans lequel il place son trésor glorieux pour répandre sa bénédiction autour de moi. Amen. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es venu dans cette pièce ? Si tu t'en rappelles plus, retourne à la croix, mais reprends la marche. Je voudrais vous passer une autre vidéo. Ça va ? Ça vous pose pas de problème ? Bon. Je n'ai pas tout compris à tout, alors il y a deux fois des petits bugs. Des étrangers, ça c'est facile. Voici Ned. Ned est devenu un disciple de Jésus il y a 2 semaines. Là, je ne comprends pas, c'est pas grave. C'est pas important. Ned est devenu chrétien en partie grâce à Kim. Ils ne se sont jamais rencontrés. Comment c'est possible ? Voyons voir ça. Kim aime Jésus depuis toute petite. Et à l'université, elle a eu un énorme impact sur ses amis. À la période où les jeunes expérimentent tout un tas de choses, Kim l'a pas fait. Elle était engagée dans sa foi et le montrait. Et spécialement à Lisa, qui lui a confessé qu'elle désirait avoir ce qui rendait Kim si forte. Kim a partagé sa foi et Lisa a cru. Des années plus tard, dans son premier réel emploi, elle a rencontré Thomas. Thomas avait été renversé par un conducteur ivre lorsqu'il avait 13 ans. Il en est resté en colère et amer. Thomas et Lisa sont devenus amis. Ça n'a pas mis longtemps avant qu'il accompagne Lisa à l'église et son mari avec elle à l'église. Il est devenu un orateur public, invité dans de grands événements. Quand il est devenu chrétien, Thomas a développé de nouvelles perspectives au sujet de la vie. Il a arrêté de regarder à ce qu'on lui a enlevé et est devenu reconnaissant pour la deuxième chance donnée. Un jour en particulier, il a parlé sur la manière de triompher des difficultés et comment choisir la joie à la place. Il était si passionné que cela encourageait même des gens à partager son témoignage sur Internet. La vidéo de Thomas, il y a un petit décalage, je crois, entre les deux. La vidéo de Thomas a inspiré James. Il avait besoin d'inspiration. Il était dans une impasse. Il a vécu la majeure partie de sa vie comme un mari passif, un père absent et un horrible ami. En un mot, personne ne le détestait plus qu'il ne se détestait lui-même. Mais tout a changé après avoir vu la vidéo de Thomas. Quelque chose s'est allumé en lui. Il a su ce qu'il devait faire. Il a confié sa misérable vie à quelqu'un qui est plus grand, fut changé pour toujours. Il a rattrapé le temps perdu et il a commencé aussi à s'impliquer auprès de jeunes hommes qui mettaient leur vie en danger, qui mettaient leur avenir en danger. Ned était l'un de ces gars. Ned n'a pas réellement connu son père, n'avait pas de direction pour sa vie. Il était seulement poussé d'une mauvaise décision à une autre. À cause de ça, il s'est retrouvé en difficulté avec la loi, n'a jamais eu personne qui lui a montré ce que signifie vivre comme un homme. Il a rencontré James. James est devenu la première vraie référence paternelle qu'il n'avait jamais eue. Il lui a parlé d'honnêteté, de self-control, d'humilité, d'intégrité. 2 mois plus tard, Ned a déclaré publiquement sa foi en Christ et bien sûr, James était là. Maintenant, vous pouvez voir la connexion. Ned a été impacté par James, qui a été influencé par Thomas. Thomas a rencontré Lisa, qui avait rencontré Jésus, par le biais de Kim. La relation personnelle de Kim avec Jésus a atteint Ned. Mais c'est amusant parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés et ils ne se rencontreront jamais. Je fixe mes yeux vers le but. Tu peux avancer. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune fille. Tu peux encore cliquer. Elle s'appelle Jamie Grace. Auteur, compositrice, interprète, musicienne, assez jeune, elle a une 20aine d'années, plutôt jolie, bon look, fraîche, sympa. Et de tous ses talents, de toutes ses capacités, elle les a mis au service du Seigneur pour louer le Seigneur et puis pour partager sa foi. Super. Faut écouter un petit peu de choses qu'a fait. On aime, on n'aime pas. Bon, c'est pas forcément mon style préféré, mais vas-y, tu peux y aller. Hein, c'est un petit morceau. Je suis une fille de Dieu. Du haut de la tête jusqu'à la semelle. Je suis à toi, Seigneur, hein, quelque part. Hein, je suis ta fille. C'est ce que je suis, une fille de Dieu. Waouh. C'est bon ça, non? C'est sympa, c'est frais. Le matin, en se réveillant, elle a fait un chant aussi qui s'appelle « Beautiful Day ». Ça commence ma journée, c'est super. Ouh, on peut se dire. Ouais, mais c'est facile pour elle. 20 ans, bourrée de talent. Certainement, ses parents, ils ont investi pour qu'elle ait des études musicales, qu'elle sache faire tout un tas de choses, que ça soit plutôt facile pour elle. Elle est encouragée, bonne estime d'elle-même. Comment on peut pas avoir une bonne estime de soi? Jolie comme ça, bourrée de talent, une belle voix. Wouh! On va écouter son histoire. Pour réaliser que c'est pas si facile que ça dans la vie. Voilà. Bon, ça a l'air de bugger un peu, hein. Mais c'est pas grave. On peut juste revenir en arrière. Je vais vous raconter, je vais vous lire ce qu'elle dit. Elle dit, je grandis dans une famille qui aime Dieu, qui écoute sa parole. Tu peux revenir en arrière, juste laisser son visage. C'est pas très grave. J'ai grandi dans une famille qui aime Dieu, qui écoute sa parole, qui répond quand il appelle, qui sait que Dieu a un but et un plan même quand l'épreuve arrive. Je suis devenue chrétienne à l'âge de 7 ans. Je me souviens que mon père me disait que le maître de l'univers m'aimait, que le créateur de l'univers m'avait créé. Il me disait que je devais l'accepter dans mon cœur et devenir sa meilleure amie. J'étais super excitée d'avoir ce privilège. Mais ma vie devint un peu plus compliquée vers l'âge de 9 ans. Je suis tombée malade et le diagnostic est tombé, j'ai le syndrome de la Tourette. Obsessive compulsive disorder, je souffre aussi d'anxiété. Le syndrome de la Tourette est une maladie neurologique qui cause des tics, parfois même pire, elle fait prononcer des mots qui sont pas très glorieux, mais c'est pas ce qui lui arrive à elle, mais elle est bourrée de tics incontrôlables qui me font faire des mouvements et des sons que je ne peux pas contrôler à l'âge de 9 ans. Découvrir que j'avais ce syndrome était très frustrant, mon pronostic vital n'était pas engagé, mais c'est une maladie qui pourrit la vie, car il n'y a pas de traitement. On m'a donc appris que je devais vivre avec ce gros souci au quotidien. Maintenant, quand on me regarde, à moins que je ne fasse ces grimaces bizarres, parce que pendant l'interview, elle est prise de tic, elle dit, on peut pas forcément découvrir que j'ai ce syndrome, que je souffre de cette problématique. Mais elle dit, entre 12 et 13 ans, la maladie avait tellement empiré que marcher ou parler était un défi pour moi, pour aller à l'école, pour me faire des amis et les garder. c'était vraiment difficile pour moi. J'ai passé tellement de temps seul dans ma chambre, fatigué d'être bizarre, fatigué qu'on se moque de moi, fatigué d'être fixé ainsi, fatigué d'être différente. Et je commençais à me demander même si ce Dieu que je servais m'aimait vraiment et s'il ne m'aimait pas moins que les autres. Je voyais mes parents, leur joie, leur zèle qu'ils avaient à chanter, à prêcher l'évangile. C'était incroyable. Je regardais ma sœur qui servait Dieu avec joie. Je me disais, waouh, ils aiment Dieu et Dieu les aime tant. Mais ils ne passent pas parce que je traverse. Ils ne peuvent pas me comprendre. Honnêtement, ce que je suis devenu aujourd'hui, ma croissance spirituelle, je dois l'attribuer à Dieu premièrement, mais aussi aux gens que le Seigneur a placés autour de moi. Lorsque je disais à ma mère, « Maman, je ne suis pas belle. Maman, je n'ai pas de projet pour ma vie. Je suis bizarre, je suis stupide, je suis gogole. » C'était le genre de mère qui répondait « Dieu t'aime, Dieu t'a créé, il a un plan pour ta vie. » Quand j'étais avec ma sœur et que les autres gamins se moquaient de moi et me traitaient d'attardé à cause de mes tics, j'avais le genre de sœur qui n'allait même pas perdre son temps à aller voir les gamins pour leur dire d'arrêter, mais qui allait aussitôt vers moi me réconforter, me proposer de jouer à un jeu afin de me changer les idées. Elle me montrait ainsi que je ne devais pas me préoccuper de ce que les autres pensent de moi, mais seulement de ce que Dieu pense de moi. Lorsque je n'arrivais pas à m'endormir, que je pleurais car j'en avais assez d'être différente et malade, que je disais à mon papa que je ne voulais plus vivre cette vie, j'avais le genre de père qui commençait à me chanter une chanson sur un air de jazz. « Tu es belle, Dieu t'aime, Dieu a un plan, Dieu a un but pour toi. » Je suis là pour toi, et il se mettait à danser. Et ceux qui connaissent mon père savent qu'il ne sait pas danser. Alors je me mettais à éclater de rire, et je rigolais jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai finalement réalisé que chacun finit par traverser une grosse épreuve dans sa vie. Mais ce qui est beau, c'est qu'aussi grande que soit cette épreuve, Dieu est encore plus grand. Il est toujours au contrôle, il reste toujours le roi. Peu importe les difficultés de la vie, on peut toujours choisir d'aller au pied de Jésus. On peut toujours choisir d'aller au pied de Jésus. On peut lui dire, c'est vrai, je ne peux pas, juste en claquant des doigts, rendre ma vie plus facile, mais je sais que tu vas traverser cette épreuve avec moi, tu vas me tenir la main. Mon psaume préféré est le psaume 30, verset 5, verset 6 dans nos Bibles. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Cette fille dit, c'est mon verset préféré. Les soirs arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse, c'est le verset de ma vie. Je dois me le répéter tous les 6 mois, voire même toutes les 6 minutes. Les pleurs arrivent, mais la joie de Dieu, la vraie joie reste. Et dans sa relation avec le Seigneur, dans la compréhension que malgré tous ces tics, toute cette maladie, Dieu a un plan pour elle, Dieu a déversé en elle tout un tas de talents, tout un tas de dons, qu'elle ne s'est pas renfermée, qu'elle n'a pas été autodétruite à l'intérieur, mais qu'au contraire, avec l'aide de Dieu, elle vient au Seigneur, elle puise sa force dans la relation de son Dieu, et ses talents se développe. Vous pouvez aller regarder si vous êtes un peu curieux sur YouTube, etc. Il y a plein de chants, il y a même tout un tas de didacticiels de comment elle fait ses chants. Elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle a une pédale de loop, c'est-à-dire elle enregistre les sons et puis elle les remet, elle fait un orchestre à elle toute seule. Elle compose, elle chante pour Dieu, elle a de la joie. Alors des fois, ça part un peu dans tous les sens parce qu'elle est submergée de ses tics, mais dans la persévérance, dans l'endurance et dans sa relation avec le Seigneur et dans ce qu'elle a puisé au sein de sa famille qui a démontré de la bienveillance. Vous vous rappelez ? La bienveillance du début. Parce que quand on a un enfant handicapé, ça peut être très épuisant. On peut être à bout aussi. On peut même devenir maltraitant dans notre façon d'être parce qu'on n'a plus de force. Parce qu'on n'a plus de ressources. Cette fille dit, on a toujours le choix de venir au pied de Jésus. Parce que, si je me rappelle plus très bien pourquoi je suis dans la pièce, il faut que je revienne à la source. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, pas parce qu'il m'a donné des règles, etc., mais qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Pour transformer mon existence, ça change mon état d'esprit, ça change mon cœur et ça m'amène à développer quelque chose d'autre. Et d'un seul coup, je découvre que j'ai des dons et des talents. Dans l'histoire qu'on a vue avant sur les étrangers, tous avaient une vie différente, des compétences différentes, des qualités différentes, mais tous ont la possibilité de vivre cette relation tellement bénissante avec le Seigneur et de partager cette paix, cette joie, d'une manière ou d'une autre, pour impacter les vies autour de nous. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps t'es dans cette pièce et tu te demandes même ce que tu fais? Le Seigneur a des plans pour nous, qu'on soit jeune, qu'on soit des enfants. Ethan, 13 ans, alors je ne vous souhaite pas tous de passer par là, mais on a tous des dons, on a tous des talents, qu'on soit des enfants, qu'on soit des ados, qu'on soit des jeunes, qu'on soit dans la vie active, des quarantenaires, des cinquantenaires, qu'on ait des petits-enfants, qu'on ait des adolescents, qui, c'est un peu bizarre, on ne parle pas la même langue, on n'est pas de la même planète. Des enfants adultes, si on commence à avoir de l'arthrite dans les doigts, si on commence à avoir mal dans le dos, à la cheville, à genoux, aux pieds, à la joue, aux dents, quand il nous en reste encore. Dieu nous rappelle qu'il nous fixe un but. C'est le ciel, c'est sa gloire, c'est sa patrie. Il nous donne tout ce qui contribue à la foi et à la piété en Jésus-Christ. Mais tant que nous sommes là, nous sommes des pèlerins et nous devons, par sa grâce, communiquer sa bonté, communiquer sa bienveillance, impacter les vies autour de nous aussi petitement qu'on puisse faire ou aussi grandement que Dieu nous accorde de le faire. Mais on développe une nouvelle odeur, l'odeur du royaume. J'aimerais terminer avec vous sur cette pensée. Tu peux replacer cette dame. Corrie ten Boom, ça vous dit quelque chose? Je voulais parler de cette dame aussi parce que on a vu un enfant qui a été malade mais qui a puisé sa force dans cette relation avec Dieu et peu importe sa maladie, parce qu'il respirait la vie de Christ et il a impacté les vies autour de lui. On a parlé de cette jeune fille atteinte du syndrome de la Tourette et de sa famille bienveillante qui lui a communiqué l'amour dont elle a besoin, l'assurance que Dieu a un plan pour elle, et au travers de ça, elle a grandi en prenant conscience que oui, Dieu a déversé en elle tout un tas de dons et de talents qu'elle a mis à la disposition de Dieu pour bénir les autres. Mais peut-être aussi que dans nos vies, il y a des choses qui se sont arrêtées parce qu'on a été blessés. Parce qu'on a dit du mal sur nous. Peut-être même qu'on a été trahi dans nos amitiés. Peut-être même qu'on a été déconsidéré ou qu'on a le sentiment d'avoir été déconsidéré et méprisé, même au sein de ceux qui devraient être des modèles d'amour, au sein même de mon Église. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a un message qui m'a impacté parce que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. J'avais déjà acquis cette vérité biblique, mais ça me l'a amené sous un nouveau regard. Nous sommes appelés à grandir dans nos vies, à croître en Christ. Mais pour grandir, il faut passer par des étapes. La croissance, il y a des étapes. Le petit enfant, quand il va grandir, ça va passer par le moment où il va commencer à se mettre debout, il va commencer à marcher, où il va commencer à parler, etc. De la même manière, dans ma vie chrétienne, je passe par des étapes dans lesquelles je dois apprendre des nouvelles choses qui sont le signe de ma croissance, du fait de grandir réellement. Quelqu'un a dit, certaines personnes vieillissent, mais ils ne grandissent pas. Dans la vie chrétienne, on peut vieillir, mais on ne grandit pas. Le Seigneur nous appelle à grandir. Et pour grandir, il faut apprendre des choses nouvelles. Et ce fameux message qui m'a interpellé sur ma façon de voir un élément essentiel de la croissance chrétienne, c'est d'apprendre à pardonner. Le pardon, c'est le socle, c'est le fondement de ma relation avec l'Éternel. C'est par son pardon et son amour inconditionnel manifesté à la croix que je suis en vie, que je suis racheté, que je suis pardonné. Et de la même manière que mon Dieu est un Dieu de miséricorde, de pardon, je dois moi aussi développer cet attribut, cette dimension dans ma vie de pardonner. Mais j'en viens au fait, pour apprendre à pardonner, il faut avoir été trahi. Il faut avoir été blessé. Il faut avoir été humilié. Parce que si on n'a aucune occasion de pardonner, on ne peut pas apprendre à pardonner. Vous me suivez ? Les blessures, les trahisons, le mépris, ça fait partie de la vie normale. Non pas parce que Dieu se plaît à ça, mais parce que nous sommes dans un monde déchu, dans lequel tous les êtres humains, qu'ils soient non-chrétiens ou chrétiens, sont tordus par la puissance du péché. Les chrétiens, ils ont cette bénédiction d'avoir été renouvelés, régénérés, et on est en train de grandir, pas de vieillir, mais grandir. Mais des fois, il y en a qui grandissent plus vite que d'autres. Et on a toujours des comportements qui sont parfois liés à notre chair. Vous avez été blessé, vous avez été déçu, mais vous avez aussi blessé. Vous avez aussi déçu. C'est logique. Et nous serons blessés, nous serons déçus, nous blesserons et nous décevrons. C'est la vie normale jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais une des tactiques du diable, c'est de nous enfermer dans l'amertume. C'est de nous amener à nous rétracter à l'intérieur et de laisser ces blessures, de laisser ces frustrations, de laisser ces choses nous paralyser, nous handicaper et nous empêcher d'être libres et de vivre la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on doit apprendre à pardonner. Et c'est pour ça que je vous parle de Corrie ten Boom, cette femme, pour beaucoup, vous connaissez, qui faisait partie d'une famille qui protégeait les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été dénoncés et qui s'est retrouvée dans les camps de concentration et dans lesquels elle a vécu des choses terribles au point de perdre sa sœur qui est morte en camp de concentration après avec elle. Mais de sa foi et de sa relation avec Dieu, elle va être guérie, elle va être restaurée, elle va apprendre à pardonner et elle est devenue un témoin, même une prédicatrice du pardon de Dieu qui sauve les vies, qui sauve les cœurs. Mais cette femme, un jour, va vivre une expérience extrêmement difficile et elle-même va apprendre où elle était un témoin et où elle encourageait les chrétiens à vivre dans le pardon, à apprendre à pardonner parce que ça libère tellement la vie et ça nous amène à goûter au ciel, à la vie de Dieu. Cette femme dit ceci dans une église de Munich où je devais prendre la parole en 47, que j'ai vu cet homme chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippés à un feutre marron. En un instant, je l'ai revu dans son uniforme bleu, avec sa casquette à visière ornée du tête de mort et de tibia. Les souvenirs du camp de concentration se sont pressés dans ma mémoire. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile pathétique de robes et de chaussures au centre de la pièce, la honte de passer nu devant cet homme, je pouvais voir la silhouette décharnée de ma sœur devant moi, ses côtes saillaient sous sa peau flétrie. Betsy et moi avions été arrêtés pour avoir caché des juifs à la maison pendant que les nazis occupaient la Hollande. Cet homme avait été l'un des gardiens du camp de concentration de Ravensbrück où j'avais été déporté. Et voilà qu'il se tenait devant moi, la main tendue. Excellent message, mademoiselle. Qu'il est bon de savoir que, comme vous venez de nous le dire, nos péchés sont au fond de la mer. Depuis ma libération, c'était la première fois que je me retrouvais devant l'un de mes bourreaux et mon sang se glaçait dans mes veines. Pendant que vous parliez, vous avez fait allusion à Ravensbrück, me dit-il. J'étais l'un des gardiens de ce camp, mais depuis, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les atrocités que j'y ai commises. Mais je voudrais aussi l'entendre de votre bouche. Il m'a tendu de nouveau la main. Me pardonnez-vous? J'étais planté devant lui, incapable de faire ce qu'il me demandait. Betsy était morte là-bas. Pouvait-il effacer la lente agonie de ma sœur simplement en me demandant pardon ? Quelques secondes se passèrent ainsi pour moi, elles me semblèrent durer des heures. Je luttais pour parvenir à faire le geste le plus difficile que j'ai eu à accomplir de toute ma vie. Je savais que Dieu ne nous pardonne qu'à une seule condition. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, avait dit Jésus, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. J'étais figé, le cœur glacé, mais le pardon est un acte volontaire et la volonté peut s'exercer quelle que soit la température de notre cœur. Jésus vient à mon aide, ai-je prié en silence. Je peux tendre la main, je peux aller jusque-là, mais il n'y a que toi qui puisses me donner l'amour. Alors, comme un automate, j'ai serré la main que cet homme me tendait. Et à ce moment-là, une chose prodigieuse s'est produite. Un courant est parti de mon épaule, passé de mon épaule à mon bras, s'est répandu dans nos mains jointes. Il a réchauffé tout mon être, m'a fait venir les larmes aux yeux. « Je vous pardonne, frère !» me suis-je écrié de tout mon cœur. Nos mains sont restées serrées pendant un long moment, celles de l'ancien gardien tortionnaire et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu aussi intensément que ce jour-là. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es dans cette pièce ? Si tu te rappelles comme le buteur où tu veux mettre le but, c'est bon, continue. Continue à puiser, sois encouragé, développe ta vie. Mais peut-être que la maladie t'arrête. Peut-être que les difficultés de tes circonstances, tu penses que les autres sont meilleurs, que tu n'as pas de don, que c'est fini pour toi, que tu n'as pas assez les ressources qu'il faut. Rappelle-toi d'Ethan, rappelle-toi de Jamie Grace. Peut-être tu as été meurtri, tu as été blessé, tu t'es arrêté dans ta vie parce que tu t'es renfermé. Tu viens au culte, tu viens à l'église parce que tu sais que Dieu y est, tu as une espérance, mais des choses se sont éteintes. Des choses ont été tuées dans ta vie. Jésus est le feu qui brûle. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si ce n'est simplement dire « Seigneur, moi je veux vivre cette vie, je veux vivre ta gloire, je veux me rappeler que si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, pour que cette bénédiction se répande dans ma vie, dans mon foyer, autour de moi, et que je puisse impacter d'une manière ou d'une autre la vie d'une personne, la vie de 10 personnes, la vie de 100 personnes. Comme Kim, je veux permettre à Ned d'entrer dans le royaume des cieux, même si je ne vais jamais le rencontrer. Amen. On va prier ensemble si vous voulez bien, Seigneur. Te dis merci de tout notre cœur, parce que tu es un Dieu vivant. On te dit merci de tout notre cœur parce que tu es le Dieu de la grâce. Et là où le péché a abondé pour nous tuer, pour nous atteindre, nous arrêter, ta grâce surabonde pour nous libérer, pour nous faire vivre ta gloire et ta présence, pour entrer dans la vraie vie et pour être cette bonne odeur de Christ partout où tu nous places. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs, quelle que soit leur situation, peut-être même celui ou celle qui est malade et qui est comme arrêté à cause de ses migraines, à cause de ses douleurs lancinantes dans son corps. Je te prie, Seigneur, que tu puisses poser ta main sur lui ou sur elle, parce que tu as la capacité de guérir, mais même si tu ne guérissais pas, que tu poses ta main sur lui ou sur elle pour libérer sa vie, pour libérer son cœur, et être un témoin comme Ethan. Je te prie pour celui ou celle qui s'est arrêté parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas assez ceci, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas vivre. Je te prie, Seigneur, comme pour Jamie Grace, que tu libères sa vie, que tu l'amènes à réaliser, que tu as déversé des dons, que tu as déversé des talents, que tu as déversé des compétences, que tu as déversé quelque chose en lui pour faire partie du corps et pour pouvoir impacter sa génération. Je te prie, Seigneur, pour mon frère ou ma sœur qui peut-être est arrêté depuis des années dans ce ressentiment. Seigneur, je te prie pour que la puissance du pardon libère sa vie, libère son cœur, et qu'il vive dans cette nouveauté de vie, dans cette capacité à maintenant se tourner vers les autres et à aimer son prochain, à aimer son frère, à aimer sa sœur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je te laisse.